Je vous remercie d'avoir affronté les lendemains de Pâques et le climat pour venir quand même nous retrouver sous ce soleil radieux. Et avant d'avoir le plaisir et l'honneur de vous présenter le professeur Dario Mantovani, je dois commencer par deux remarques préliminaires. D'abord, Dario Mantovani n'est pas seulement ici en raison de ses qualités intrinsèques et de ses compétences, mais aussi puisque cette sorte d'échange se fait dans le cadre d'une convention que le Collège de France a avec le IUS, l'Institut universitaire d'études supérieures de Pavie. Deuxième rectification, Pavie, je l'ai dit. Certains ont peut-être été étonnés de voir sur les premières cartes ou affiches le nom de Pise comme son lieu de rattachement. Ils s'interrogent encore aujourd'hui si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose, mais disons, c'est Pavie, bien entendu. Dario Mantovani, effectivement, est un pavese et il y a fait ses études, a soutenu il y a longtemps, déjà en 85, une thèse publiée sous le titre de Digeste et les masses dites bloomianes, qui a reçu la médaille de l'Université de Besançon en mémoire de Gérard Boulevert. Et ensuite, il a commencé une carrière de chercheur et de professeur associé extraordinaire à Trent ou à Parme, à Plaisance même, où il a enseigné le droit romain à l'Université catholique du Sacré-Cœur. Puis, depuis 1997-18, il est professeur ordinaire d'institution de droit romain à la faculté de jurisprudence de l'Université de Pavie, où il a même été pendant 5 ans le directeur du département de droit romain, d'histoire et philosophie du droit. Il n'est pas inconnu à Paris, puisque déjà en 2000, il a séjourné parmi nous comme directeur d'études invité à l'École pratique des hautes études, dans le séminaire de Jean-Louis Ferrari. Parmi ses nombreuses activités italiennes et étrangères, je n'en cite qu'une qui dépasse les limites de son université. Depuis 2002, il est le directeur du Centre d'études et de recherche sur les droits antiques, le CEDANT, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un élément de l'Institut universitaire d'études supérieures de Pavie, et dont il est, à vrai dire, l'âme qui a animé depuis une dizaine d'années le milieu des chercheurs en droit et en histoire, puisque ce centre a l'originalité de rapprocher ces deux parties de la vie intellectuelle. Pour les champs de recherche, je ne vais pas détailler tout. Dario a étudié presque tous les thèmes de droit romain qu'il approche soit du point de vue technique, mais dans le cadre de la pensée antique, soit dans sa dimension philologique, de leur réception par la postérité jusqu'à l'époque moderne. Et parmi ces thèmes plus précis de recherche, il y a la méthode de composition du digeste, un sujet très particulier aussi qui est celui des procès privés formulaires, la reconstruction de ces formules, etc. Les procès criminels, et toujours autour de la juridiction criminelle du prêteur. Et enfin, il travaille sur les juristes eux-mêmes, sur la légitimation sociale de leur rôle, où il va jusque dans des études prosopographiques, et aussi, vous le verrez aujourd'hui, il s'intéresse aux œuvres des juristes romains comme genre littéraire. Et les 4 cours qu'il fera ici s'inscrivent dans ce contexte. Et puis, par ailleurs, il est de ces juristes qui s'intéressent aussi au droit public et qui se sont intéressés à la réalité de ce qu'on peut appeler la Constitution romaine, et notamment la loi de Imperio Vespasiani, où il a fait une édition, un commentaire de référence. Et, comme toujours, en contrepoint, il s'intéresse aussi à la réception, à l'historiographie moderne autour du droit. Je ne vais pas vous énumérer ses publications, vous les trouverez facilement sur son site. Je voudrais, avant de lui donner la parole, vous dire encore une information, faites attention aux dates pour des raisons de calendrier et de disponibilité de salles. Nous avons dû avancer le cours d'aujourd'hui à un mardi, mais les trois autres cours auront lieu les 11, 18 et 25 avril, c'est un jeudi, dans cette même salle, à 14h30. C'est donc 11, 18, 25 avril. J'ai quelques affichettes, encore deux ou trois, pour ceux qui ne les auraient pas. Voilà. Et je laisse donc la parole à Dario, et je me réjouis d'avance de ce qu'il va nous dire sur les écrits des juristes romains comme littérature.
Buongiorno. Les œuvres des juristes romains se sont imposées comme un texte normatif en Europe entre le XIe et le XIXe siècle, car celui-ci, plus unique que rare, sauf que les Saintes Écritures, d'un produit culturel qui non seulement a pris le caractère d'un modèle, comme ce fut pour Aristote, Cicéron et Galien, mais auquel on a reconnu la validité contraignante de réglementer la vie du présent. Jusqu'au code du XIXe siècle, le droit romain a été appliqué comme droit commun en vigueur en Europe continentale, y compris la France, apaisée de la division entre pays de coutume et pays de droit écrit. La vitalité dont ont joui les contenus normatifs du droit romain n'a pas suscité en revanche une pareille attention vers les œuvres des juristes romains, en tant que telles, comme exemple inestimable de la prose latine. C'est le paradoxe qui m'a suggéré les thèmes de ces conférences, et je dois remercier chaleureusement John Shade, qui me permet d'en parler dans ce lieu prestigieux du savoir humanistique et scientifique, et ses paroles d'introduction en disent longue sur son bienveillance. Parmi vous, je compte de maîtres et des amis, ce qui rend cette journée pour moi un véritable don. Une valorisation des ouvrages des juristes s'est heurtée sûrement à l'état fragmentaire dans lequel ils se trouvent. Rédigés pour la plupart entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le IIIe siècle après, ils nous sont parvenus presque exclusivement à travers le digeste de Justinien, une anthologie où les ouvrages des anciennes jurisconsultes ont subi un appauvrissement impitoyable. Selon les calculs stichométriques effectués par le même Justinien, le digeste ne contient que 5% des textes juridiques encore circulant à son époque, qui étaient à leur tour une fraction seulement des ouvrages qui avaient été écrits. Plus grave encore, dans le digeste, les œuvres des juristes classiques ont explosé en courts fragments, de sorte qu'il est difficile de renouer les fils du contexte originaire, de saisir l'esprit qui le parcourait. Un livre seulement, les Institutes de Gaius, un manuel daté du IIe siècle après Jésus-Christ, nous est parvenu presque intègre, hors du digeste. En plus de la pauvreté de la transmission textuelle, fait écrin au désir de prendre contact avec les œuvres des juristes, aussi la conception, difficile à surmonter même pour nous, qui identifie la littérature avec la poésie et avec la prose d'imagination. Par conséquent, dans les histoires modernes de la littérature latine, les œuvres des juristes romains sont d'habitude reléguées dans le coin de la prose spécialisée, parmi les textes pragmatiques, à côté des traités de l'agriculture, grammaire, rhétorique, architecture, médecine, arts militaires, arpentage, sciences naturelles. Et tandis que ces œuvres reçoivent néanmoins une croissante attention, les histoires littéraires souvent n'hésitent pas à déclarer que, à cause du contenu, elles laissent volontiers l'explication des œuvres juridiques aux historiens de droit. Un hommage empoisonné qui prive les historiens de droit, comme celui qui vous parle, du guide savant des latinistes. De ces faits, nous sommes en face d'un paradoxe. Une littérature aussi influente à l'époque médiévale et moderne devient presque invisible à nos yeux, comme si elle n'avait pas même fait partie du système littéraire romain, comme si l'ombre dans laquelle le digeste l'a jetée l'avait déjà couverte dès l'origine. D'où ma question. Y a-t-il eu une littérature juridique romaine? Une littérature, pour exister, a besoin des écrivains, des textes et d'un public. Lorsqu'on s'occupe de la littérature juridique romaine, d'habitude, on parle beaucoup des écrivains, c'est-à-dire des juristes, très peu de leurs textes et quasiment rien du public. Dans mes quatre leçons, je souhaiterais renverser ce classement. J'irai aujourd'hui en quête des lecteurs, du public et de leurs attentes. Dans les prochaines leçons, je vais vous présenter quelques textes exemplaires. Je ne parlerai pas des auteurs, des juristes, ou plutôt, je vais éviter l'approche biographique dans l'espoir que les juristes puissent se faire présents à nous à travers leur ouvrage. Parler du public, étant le thème de cette première leçon, implique plusieurs points de vue, entrelacés mais pas identiques. Il faut tout d'abord se demander de quelle circulation jouissaient les ouvrages, si cette circulation était plus ou moins étendue. Parler du public signifie, en outre, regarder les ouvrages juridiques à travers les yeux des anciens qui ont eu la chance de les consulter et en recevoir une évaluation par contre-coup. Aller en quête du public signifie, enfin, chercher dans les textes mêmes les caractères qui nous révèlent quel type de lecteur il s'est forcé d'attirer. Parler du public est donc un voyage dans et hors des textes. Notre voyage demeure dans un milieu où personne ne s'attendrait à entendre parler de droit. À l'occasion d'un dîner le plus magnifique et célèbre de l'histoire de Rome, lors du banquet des Trimations, imaginé par Pétron autour des années 60 après Jésus-Christ, la conversation tombe, comme ça arrive souvent, sur les enfants et sur leur éducation. C'est Écion qui parle, un marchand de vêtements usagés, une personne de fortune modeste et pas cultivée, un peu irrité par la présence à la table d'une sorte d'intellectuel, le rhéteur Agamemnon, auquel Écion veut montrer que l'instruction vaut quelque chose seulement si elle est rentable. Il parle de son fils, adolescent, ou plutôt d'un garçon qu'il a accueilli comme un fils, et comme tous les parents, désire en donner un portrait positif. Il dit que dès qu'il a un moment, on ne peut plus lui tirer le nez de ses livres. Mais on comprend vite que le garçon n'a pas beaucoup de moments libres parce qu'il préfère jouer avec ses animaux domestiques, s'agit de chardonnerie, il semble, que le père est enfin forcé à supprimer. Le garçon ne paraît certainement pas être un génie non plus en arithmétique, il n'est pas allé au-delà de calcul élémentaire, la division par quatre. Il a arrêté d'étudier le grec, bientôt il cessera d'étudier la littérature latine. Peut-être que c'est la faute des deux maîtres qui viennent chez lui et qui ne jouissent pas de l'estime du père, aussi car il les paie peu. Mais, tout considéré, le garçon a déjà consacré trop de temps à la culture. Le père a décidé de le diriger vers un sujet plus rentable, le droit, justement. Et il nous dit même comment il le ferait. « Je viens d'acheter », ce sont les mots en gros, « Je viens d'acheter à mon gamin des bouquins rubriqués. Je veux qu'il goûte un peu du droit. Ça peut servir à la maison et c'est une science qui nourrit son âme. Il n'est déjà que trop empesté de littérature. S'il en aurait marre du droit, je lui ferais prendre un métier, barbier, crieur public ou même avocat. Un métier enfin que rien ne puisse plus lui enlever demain que la mort. Nous reviendrons encore et encore sur ces mots parce qu'ils sont, on peut, je dirais, oubliés par l'historiographie et ils sont riches et pleins de surprises, comme les plateaux de friandises que Trimension a fait préparer pour ses invités. Nous commençons par « Emi ergo nunc puero aliquot libra rubricata, qui a volo illum ad omusione maliquid de iure gustare ». D'un point de vue linguistique, c'est un exemple éclatant de la langue du bas registre familier. Libra rubricata s'est traité comme neutre, quoique liber soit masculin. Aliquid de iure devrait se dire aliquid iuris. C'est le présage de la transition de la déclinaison des cas à la forme prépositionnelle qui s'accomplira dans les langues romanes. Un peu de droit, un po' di diritto. Petron, de cette façon, se moque de l'ignorant de toute époque qui n'a pas honte d'exprimer son jugement sur l'éducation. Venons au contenu. Notre attention est retenue par l'expression « libra rubricata », livre avec deux titres à l'encre rouge. Cette définition de Petron n'est pas solitaire. Dans la même période, Perse utilise « masuri rubrica » pour faire allusion à l'œuvre du célèbre juriste Masurius Sabinus. Un peu plus tard, Quintilien parlera des rubriques, Juvenal de « leges rubre », toujours renvoyant par métonymie au livre juridique. Nous avons la chance de pouvoir comparer cette métonymie avec un fragment de papyrus de la collection de l'Université du Michigan. C'est le papyrus 456, le côté recto, daté du 1er siècle, donc à peu près contemporain de Petron. Il s'agit d'un texte juridique qui emploie une cursive ancienne inclinée vers la droite et présentant des rubriques en rouge qui démarquent de brefs chapitres. Le premier est consacré à la bonorum venditio, à la vente aux enchères, le second au iudex datus. On voit ici en détail de la deuxième rubrique. Voilà un de ces livres auxquels songe le personnage de Petron, ce qui nous fournit, je dirais, une première réponse concrète et affirmative à la question de savoir s'il existait une littérature juridique. Quand Équion parle de livres rubriqués, il nous présente plastiquement la littérature juridique comme un genre avec une identité reconnue par les contemporaines, identifiable à partir de la mise en page. À part les rubriques, ce genre de texte recourait à d'autres éléments paratextuels que nous connaissons encore grâce aux papyrus, car en revanche, ils ont été éliminés du digeste. Le problème, un des problèmes de l'approche à la littérature juridique, c'est que le digeste nous fournit une image très, je dirais, déformée de la littérature en tant que telle. Pas des contenus, mais de la forme. Alors, c'est ce papyrus de la société italienne. C'est un bifolio du VIe siècle. L'auteur anonyme de cet ouvrage cite un ouvrage antérieur avec bien de détails, nous le voyons, l'œuvre de Paul, du juriste Paul, intitulée « Questiones », était divisée en livres, nous avons ici le livre 1, en titre, probablement écrit en rouge, et dans le titre, chaque « question », chaque cas, chaque problème, avait été numéroté. Ici, on cite le dixième, peut-être. Le paratexte était donc très visible, le paratexte des livres juridiques. Si le papyrus Michigan est un rouleau, celui-ci qui cite Paul a le format du code, le livre carré. L'exigence de trouver aisément les passages visés a déterminé cette évolution du format libraire, dont la littérature juridique a été protagoniste à côté des œuvres chrétiennes, soit l'adoption précoce dès le second siècle, justement du format du code, un nom qui s'est également imposé par métonymie comme dénomination des textes juridiques jusqu'à notre âge. On sait très bien que la mise en page n'est pas seulement un fait extérieur, elle nous décèle l'orientation du livre vers le lecteur. Donc, les textes juridiques n'étaient pas des œuvres qu'on lisait du début à la fin, mais plutôt de façon visée en prélevant de petits morceaux bien délimités. Le public commence donc à surgir de son repère d'ombre. Sans faute, les premiers destinataires étaient les juristes. Mieux encore, les premiers lecteurs des œuvres juridiques étaient les mêmes juristes qui les écrivaient. Leurs pages sont, en fait, un dialogue serré avec les livres de leurs prédécesseurs qui s'instaurent dans une sorte de présent dilaté, presque insensible aux contraintes chronologiques. Prenons un exemple qui nous est parvenu hors du digeste, d'accord, donc qui a pu garder toute sa complexité labyrinthique. Ulpien, dans le livre Dicepte du commentaire Ad Sabinum, écrit « Julien, dans le livre 35 du Digeste, pose ses problèmes. Ambien a été laissé par les gars en usufruit, un esclave appartenant à deux maîtres, et séparément, l'usufruit a été légué aussi à Titius. » Typique cas qui fait la joie des juristes. L'un des deux propriétaires de l'esclave perd sa part de l'usufruit. Selon Julien, la part perdue revient à l'autre copropriétaire de l'esclave. Pourtant, ni Marcellus ni Mauritianus, poursuit Ulpien, ont accepté ce point de vue. Papinien, lui aussi, dans le livre 17e des Questiones, s'en détache. Par contre, cette opinion de Julien avait été celle de Neratius, comme on lit dans le premier livre de ses réponses. À ce point du compte rendu, Ulpien se prononce en faveur de Julien, mais il s'empresse de souligner que Pomponius, dans le livre 7 du commentaire à Plautius, rappelle que certains juristes sont d'un avis encore différent, et la discussion d'Ulpien reprend son élan, mais nous pouvons nous arrêter ici pour dresser un bilan. Ulpien écrivait autour le 220 après Jésus-Christ, alors qu'il était préfet du prétoire. Les juristes qu'il cite sont Papinien, mort en 212, aussi préfet du prétoire, Marcellus, qui a vécu plus ou moins jusqu'à 180, et Mauritianus, qui devait être plus ou moins son contemporain. Julien fut consul ordinaire en l'an 148, Neratius fut consul en 97. À son tour, l'œuvre d'Ulpien, d'où nous avons tiré cette page, est dans son ensemble un commentaire à la pensée d'un juriste plus ancien encore, Masurius Sabinus. Il a vécu à l'époque de Tibère. Donc, dans une seule page d'Ulpien, se déroule une chaîne d'opinions longue environ deux siècles, s'étalant en rebours de l'âge de Septime Sévère à celui de Tibère, et tous les juristes sont traités de sa part comme des interlocuteurs contemporains. Ce présent dilaté nécessite d'un espace littéraire, c'est-à-dire qu'il trouve dans l'écriture non pas seulement un témoignage, mais sa condition d'existence. Il n'existe pas en dehors d'elle. Il faut cependant rappeler que par rapport à d'autres littératures techniques, étant en grande partie l'exposé des connaissances développées par autrui, les manuels de rhétorique latin, par exemple, sont le remaniement d'un sujet déjà largement réglé en Grèce, et c'est pareil pour l'agriculture ou la médecine, les écrits des juristes étaient en revanche le produit des créateurs de la discipline eux-mêmes. Donc, en droit, l'écriture n'est pas une démarche purement intellectuelle, mais c'est un élément de la production même du droit. Et pour saisir la nature livresque de cette production, de ces dialogues entre juristes, il suffit d'observer qu'Ulpien, dans le texte que je viens de citer, n'oublie jamais d'indiquer titre et nombre du livre dans lequel il a lu les opinions des personnages qu'il appelle à paraître en scène. Seulement, en se rapportant à Mauritianus et à Marcellus, Ulpien n'indique pas les titres de leur ouvrage et la cause de ce silence a, une fois de plus, à quoi faire avec le mode de transmission textuelle. Les avis de Mauritianus et Marcellus étaient accrochés comme annotations en bas de page au digeste de Julien. Ces annotations étaient donc des métatextes qui ne circulaient pas de façon autonome. Mais justement, la pratique de l'annotation des œuvres d'autrui nous montre quel niveau avait atteint la littéralisation du droit dès le début du Principat. À certains livres était désormais reconnue la position détachée de textes qui font autorité et ils étaient l'objet de commentaires. La littérature juridique romaine est donc certainement une littérature utilitaire, pragmatique, à dominante informative, qui doit incessamment être mise à jour suivant les changements de droit. Pourtant, elle, dans la longue durée, elle accumule une autorité annonce permanente, elle devient le centre de gravité de l'activité des juristes. Il serait naïf de penser qu'Ulpien ait traité les cas de l'usufruit légué à l'esclave de deux maîtres à la suite de la consultation faite par un client. Comme nous l'avons vu, il s'agissait d'un cas qui circulait par écrit depuis des siècles et Ulpien ne faisait que s'ajouter à la chaîne des discutants. Il serait toutefois une erreur de croire que l'écriture juridique s'est bornée au simple recueil des précédents. C'est une des images qui obscurcit les contacts avec les œuvres des juristes. Les opinions des juristes évoquées par Ulpien, comme elles étaient divergentes, chacune était forcément pourvue du soutien d'une argumentation rationnelle. Et dans la prochaine leçon, je vais revenir sur la façon sophistiquée dont les juristes se servent de la philosophie aussi. Non pas pour résoudre les cas juridiques, non pas pour trouver la valeur qui indique la solution du cas juridique, mais pour donner au problème une forme permettant de les traiter. Donc, revenant au lecteur, il est évident que la littérature juridique contribuait à nourrir la littérature juridique elle-même. Il y avait en principe une symétrie entre la position de l'émetteur-scripteur et du récepteur-lecteur, à son tour juriste-écrivain. Mais ça n'est que le cercle plus restreint du public. Les études de Wolfgang Kunkel et de Detlef Lips ont montré que, en plus des grands jurisconsultes-écrivains, il y avait en Italie et dans les provinces une couche de juristes qui n'ont laissé aucune trace écrite de leur travail, mais qui étaient indispensables pour le fonctionnement du droit au quotidien. Ils intervenaient comme conseil juridique, à côté des particuliers, lors de la rédaction d'actes juridiques et de formules d'action. Et ils siégeaient à côté des magistrats, y compris dans les municipes latins qui appliquaient le droit romain dans tout l'Empire, bien avant la Constitution antoniniana du 212. Même le fait que les juges étaient, dans la plupart des cas, de simples citoyens privés, comme on le sait bien, souvent dépourvus de notions de droit, leur imposait la nécessité d'être soutenus par des professionnels. Ces juristes non littéraires, engagés sur les champs, ne pouvaient que faire appel à la littérature juridique afin de se renseigner. Ainsi, derrière la diffusion du droit romain comme raison de l'Empire, on peut entrevoir le rôle joué par la littérature. Dans notre quête de lecteurs potentiels, revenons au passage de Pétron. Le père dit qu'il a acheté les libra rubricata pour que son enfant apprenne le droit. Donc, une troisième couche du public prend forme. Celui des étudiants, aussi autodidactes. C'est une petite surprise, car on pense généralement que la formation juridique s'est réalisée par voie d'apprentissage, c'est-à-dire en écoutant un juriste donner ses réponses aux clients. Il y a du vrai, mais il s'agit aussi d'une vision idéalisée qui ne tient pas compte du processus d'expansion du droit, marchant du même pas que l'expansion de l'Empire. La notice de Pétron implique aussi qu'il y avait à son temps un commerce de livres juridiques. Il dit « j'ai acheté ». Bien sûr, il ne faut pas s'imaginer des véritables entreprises vouées à la transcription, et pourtant la circulation des textes n'était pas confiée à la simple copie privée, comme ce fut souvent le cas à Rome avec la littérature artistique. Les livres de droit étaient sur le marché. Sous les principats, le développement du commerce libraire accompagne l'affaiblissement du contrôle exercé par l'aristocratie sur la transmission des connaissances et sur la mobilité sociale. C'est exactement ce que l'on voit dans les passages de Pétron. Les commerçants de vêtements usés qui ont achète des livres juridiques parce qu'il souhaite que son fils puisse progresser dans l'échelle sociale. on pourrait soupçonner et qui ont d'ingénuité, car, dans son ignorance, il aurait tort de croire que le droit puisse être appris dans le livre. Mais voilà la plus imposante des confirmations. Quintilien, quelques décennies plus tard, affirmera que ceux qui étudient la rhétorique doivent aussi connaître le droit et, je cite, que pour l'apprendre, il suffit de faire recours à peu de livres. Il précise, si on se tient à l'essentiel, sans s'entêter à vouloir lire tout, ce qui est en tout cas impossible. Nous voyons dans les mots de Quintilien la dimension très grande qui a prise la littérature juridique. Lorsque Quintilien exprime cette idée, les manuels institutionnels ne circulaient pas encore. Le droit adopta beaucoup plus tard, par rapport aux autres disciplines, la forme de l'ars, inspirée des modèles fournis par les technaï grecs, grâce au manuel de Gaius, dont je vais parler lors de la dernière leçon. Il ne me semble pas avoir été remarqué que la définition la plus célèbre du droit, « Jus est ars boni et equi », le droit, c'est l'art du bon et de l'équité, a été formulée par les, du bien et de l'équité, a été formulée par les juristes Cels, lorsque, selon toute probabilité, le « jus » n'avait pas encore été transformé en « ars », dans le sens du manuel technique, et en connaissant l'esprit mordant de Cels, le paradoxe était probablement intentionnel pour souligner que le droit représentait déjà une technique structurée sans la nécessité de faire appel à une forme qui lui était étrangère. Avant de reprendre notre discours, une précision s'impose. Mon exposé vise à faire émerger la littérature juridique dans son complexe. En faisant cela, j'ai dû renoncer à rendre compte d'une évolution historique qui a certainement touché l'écriture juridique pendant 5 siècles. J'ai aussi renoncé à retracer la forte différenciation en sous-genres littéraires qui la caractérise. J'ai parlé justement de manuel qui est en sous-genre dans le champ littéraire juridique, comme en témoigne la grande variété des titres qui a attiré récemment l'attention de Jean-Louis Ferrari. Je vais récupérer en partie cette différenciation dans les prochaines leçons. Maintenant, il faut se concentrer sur les caractères communs perçus comme tels aussi par les contemporains en somme tentés de définir le statut de l'œuvre juridique. Les indices que nous venons de rassembler vont tous dans la même direction, peut-être inattendue. L'image d'une littérature bien reconnaissable par son format et qui a joui d'une grande circulation se dessine. Cette littérature invisible se révèle imposante, du moins entre la dernière époque républicaine et les principats. Mais c'est une réalité, ou plutôt une illusion optique. À ce point, nous devons nous adresser de nouveau au papyrus, qui nous accorde un retour étonnant, qui attend encore d'être exploité. Comme ça ressort d'un récent recensement dressé par Serena Mirati, parmi les témoins latins sur papyrus et parchemin, datant du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 6e après Jésus-Christ, je cite numériquement, près de la moitié des fragments littéraires est du contenu juridique. Des fragments littéraires, pas des papyrus, parchemin documentaires, seulement des textes littéraires, presque la moitié est de contenu juridique. Même avec la prudence nécessaire lorsqu'il s'agit de données quantitatives, l'indication nous paraît claire et simple. La littérature juridique dans le monde romain s'était propagée presque au même degré de la littérature artistique entière. C'est le reflet du marché libraire que Kions nous a laissé entrevoir. On reviendra en conclusion dans quelques moments sur une dernière couche de potentiels lecteurs. Maintenant, pour prendre conscience de l'extension du public, on peut se borner à un constat général, pourtant décisif. Le droit était un grand dépôt métaphorique, dont ce n'est que récemment qu'on commence à prendre conscience. Je renvoie par exemple aux études conduites sur le poète Augustin par Ulrich Gebhardt, ou sur Sénèque par Gianfranco Lotito, ou sur Plaute par Luigi Pellecchi. la pénétration très fine du langage et des concepts juridiques dans tous les genres montre une bonne confiance avec la culture juridique, non seulement de la part des écrivains, mais aussi de la part des lecteurs, qui étaient censés de comprendre les allusions. D'autre part, on le sait très bien, l'enseignement de la grammatique était conduit jusqu'à la fin de l'époque républicaine sur les 12 tables, et les herméneumata pseudo-deusoitéana nous montrent que quelque chose de comparable s'avérait dans les écoles, dans l'Antiquité tardive. Donc, on pourrait dire que le droit et sa littérature étaient presque en bien commun. Si une littérature si éblouissante est tombée dans l'ombre, presque cachée à notre vue, on serait tenté de reprocher, d'en faire une faute à l'attrait aveuglant exercé par la littérature artistique. Mais ces constats risquent de nous faire retomber dans une perspective anachronique basée sur une distinction entre genres qui relève de nos vues. Il vaut mieux laisser encore une fois la parole aux lecteurs anciens. Les livres des juristes ne se trouvent pas parmi ceux dont Quintilien recommande la lecture aux élèves de rhétorique pour qu'ils puissent exercer leur style. Parmi les textes en prose latin, il ne recommande que l'historiographie, les plaidoyers, les traités de philosophie. Quand il s'agit d'exercer la mémoire, cependant, les écrits des juristes peuvent être utiles, dit Quintilien. Sur une échelle idéale qui couvre tous les genres et commence de la poésie, les ouvrages juridiques sont à l'autre extrême. Ils sont, il dit, solutiora numeris, c'est-à-dire les plus pauvres des clauses rythmiques et les plus éloignés du style demandé aux orateurs. Quintilien termine en disant, comme les athlètes s'entraînent pour la course en se mettant des poids aux chevilles pour renforcer les muscles, aussi ceux qui veulent exercer la mémoire pourront utiliser les textes des juristes car ils sont très lourds. Il faut dire en passant, et ce sera la dernière fois que je le mentionne, que Écion, l'hôte de Trimalcion, rivalise avec Quintilien aussi sur le terrain de la critique littéraire. Après avoir acheté les livres de droit, Écion ne se faisait aucune illusion que son fils les aurait lus. Et il lui préparait déjà une autre carrière. Si résilierit, c'est-à-dire s'il en aurait marre de droit, je lui ferais prendre un métier, barbier, crieur public ou même orateur. Par conséquent, Écion, voire Pétron, confirme Quintilien. Les livres juridiques n'étaient pas une lecture aisée. La fonction principale du discours juridique est d'informer, de docere. Le but d'obtenir un plaisir esthétique et d'émouvoir lui est étranger. D'où une rigide délimitation expressive, le discours se borne à être évident sans s'orner de figures de mots ou de pensées. Évident, c'est le discours qui véhicule immédiatement son sens. Orné, c'est le discours qui se montre lui-même. Sans besoin de faire appel à des catégories modernes, ces signaux instituent une taxonomie. Les livres juridiques étaient placés aux marges de la grande littérature, mais ils n'en étaient pas au dehors. Qu'est-ce que les maintient à l'intérieur de ces périmètres? Outre le prestige de leur contenu, du jus civile, et de leur utilité, ce qui les prenait aux yeux d'un intellectuel comme Quintilien, c'était la précision lexicale. C'est exactement ce mot de Quintilien qui, vers la moitié du 1400, a poussé Lorenzo Valla à dédier aux juristes romains un éloge triomphal et à les inclure dans le canon des auteurs ayant comme but de rétablir la connaissance du latin. Il s'agit d'un éloge que le génie tutélaire du Collège de France, Guillaume Budet, a répété dans son œuvre peut-être la plus importante, les Annotationes, un commentaire du Digeste, justement au point de vue de la signification des mots et des institutions anciennes. L'élégance lexicale n'équivaut quand même pas à l'élégance du style. À cet égard, la prose des juristes semble ne pas s'éloigner de la prose des autres écrivains techniques. Et pourtant, il y a un aspect qui n'a pas été pris je pense, en due considération, à savoir que ce style parvient aux écrits des juristes de leur préhistoire, c'est-à-dire d'une longue expérience dans la distillation de règles. La distillation de règles, c'est l'expérience qui est derrière la naissance et le style de la littérature juridique. L'exemple le plus évident et connu est le style des 12 tables. Si nox furtum faxit, si mocisit, iure Cesus esto. S'il a commis un vol de nuit, si quelqu'un le tue, il est tué à juste titre. Mais des préceptes comparables ont été élaborés par des collèges sacerdotaux. Nous ne sommes pas sur le terrain de la législation, nous sommes dans un terrain, on pourrait dire, littéraire, quoique normatif. On peut en retrouver un exemple charmant dans la série des tabous imposés aux flamins de Jupiter, dont nous avons la transcription dans les Commentari Iuris Pontifici, écrits par un Fabius Pictor, datant probablement, on ne sait pas vraiment, du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce sont de courtes règles qu'on considère destinées à protéger la force lumineuse des Flamines, mais je ne voudrais pas tomber sur la sanction de John Scheid. Ces règles étaient composées de deux parties, c'est-à-dire une brève description du fait à laquelle suit la qualification juridique. Syntaxiquement, il s'agit des propositions hypothétiques composées de protases et d'apodoses, parfois rendues plus complexes par accumulation de protases coordonnées par ascendette. Si quis adverberandum ducatur, si ad pedes eio supplex procubuerit, eo dio verberare piaculum est. Si quelqu'un est amené pour être fustigé, s'il va tomber suppliant au pied du flamin, ce jour-là, le fait de le fustiger est une acte impure. C'est une règle ciselée par les pontifes. C'est ce type de règle, affinée pendant 3 siècles environ, depuis les débuts de la République, qui constitue le style secret des écrits des juristes. C'est exactement le style qu'Hécaton, lui aussi bon juriste, déploie dans les De Agricultura, si quis quid deliquirit, pro nox bono modo vindicet, où l'on remarquera que les sujets implicites de la protase et de la podose sont différents, exactement comme cela arrive souvent dans les 12 tables. C'est toujours le style des juristes lorsque Ulpien écrit, au IIIe siècle après Jésus-Christ, si l'on ne parvient pas à prouver les tuteurs qui sont nommés en remplacement, si l'on est encore dans le 15e jour, on peut nommer d'autres remplaçants. Donc, c'est dans la loi que demeure, à mon avis, la racine du style de la jurisprudence. Elle en absorbe la brévité très informative, on pourrait dire l'économie des moyens, et la stylisation archaïque. Va aussi dans le sens du lien avec les lois, l'emploi des sigles, des abréviations. Par exemple, notre papyrus Michigan contient les lettres DFO, c'est difficile à les voir, abrégiant dare, facere au portere, expression celle-ci, typique des actions et des contrats. L'emploi des sigles, caractéristique des manuscrits juridiques, est également typique des lois gravées sur le bronze. Dans cette adhésion intérieure et extérieure au style législatif, j'ose affirmer que les juristes exprimaient la conscience que leur écrit jouait un rôle normatif presque sur le même plan de la législation. Si l'on se rapporte pour un instant à son origine, on voit bien que la littérature juridique s'est affirmée très tôt, on pourrait dire, selon nos informations, que le premier texte en prose latine, c'est un texte juridique qui est attribué à Appius Claudius l'Aveugle, à la fin du IVe siècle. C'est une littérature qui s'est affirmée très tôt comme si elle découlait des 12 tables. C'est une image qu'on trouve dans Pomponius. Et je pense que dans la perspective, pas seulement métaphorique, mais je dirais vraiment historique, il y a du vrai dans cette image. Les juristes écrivent tout en suivant le rythme de la loi et leur style en voix qui ne se confond pas avec celui du reste de la prose technique. Et je pense que ça vaut même pour les réponses qu'on pense souvent soit à la base des livres juridiques. Mais je pense que même les réponses que les juristes donnaient aux consultations des clients étaient rédigées comme des règles. C'est dans la dialectique entre cette matrice législative et la richesse des plusieurs apports culturels, dont nous verrons des exemples lors des prochaines leçons, que la littérature juridique romaine a assumé l'identité qui, pour le public de l'époque, était tout à fait reconnaissable avant de devenir invisible. Nous avons jusqu'ici renoncé à adopter une définition moderne de littérature en préférant regarder les œuvres des juristes à travers les yeux des contemporains. Au moment de conclure mon exposé, je me décide à choisir, entre autres, une définition moderne, celle qui adopte comme critère la relation avec le public. L'œuvre littéraire, dit cette définition, est un texte qui n'est pas destiné à un lecteur spécialisé, même si au début elle avait eu un tel but. L'œuvre littéraire le surmonte si l'on tient en compte qu'elle est lue par des gens ne cherchant que l'amusement ou les plaisirs intellectuels. Il reste alors à se demander si les livres juridiques étaient recherchés pour d'autres raisons que la connaissance du droit en vigueur, c'est-à-dire pour le plaisir du texte, s'il nous est permis de faire allusion avec un profond respect à un autre grand esprit du Collège de France. Cicéron, dans un passage célèbre du De Oratore, a osé le soutenir. C'est un plaisir de lire les juristes, car on y retrouve la trace des coutumes anciennes ainsi qu'un lexique archaïque. Cette lecture antiquaire, suggérée par Cicéron, sera suivie par Verrius Flaccus, Pline l'Ancien et Aulus Gelle, et par Guillaume Budet, inspiré exactement par ce texte de Cicéron. La leçon de jeudi 18 sera consacrée à cette dimension historique de la littérature jurisprudentielle. Mais le plaisir du texte doit passer un test encore plus difficile. La question qui nous reste, c'est de savoir si quelqu'un lisait les livres juridiques n'attiré que par leur contenu spécifique, c'est-à-dire par le plaisir de se plonger dans les cases complexes du droit privé remuant à travers les siècles la coupe d'opinions contraires. Franchement, on pourrait s'en douter. Pourtant, quelques traces en subsistent. On connaît la soirée passée par Cicéron et Trebatius Testa en discutant, entre gorgées de vin, d'une question concernant le vol des choses héritées. De retour à la maison, Cicéron se précipite à transcrire un chapitre des livres de Quintus Mucius, Scaevola, et à l'envoyer à Trebatius pour lui montrer qu'il avait eu raison dans la discussion. La lettre de Cicéron, comme cela a été démontré par Mario Citroni, est en fait une imitation du poème 50 de Catulle. A fortiori, il démontre la possibilité que les droits et sa littérature puissent entrer dans des complexes échanges intellectuels. Beaucoup moins connu, c'est une autre lettre se trouvant dans le Digeste, 45-20. Elle a été envoyée à la moitié du deuxième siècle après Jésus-Christ au juriste Pomponius. L'identité de l'émetteur est inconnue. Il transcrit un passage du juriste Julien, puis il demande à Pomponius s'il pense que la solution proposée par Julien soit correcte. La motivation avec laquelle il accompagne sa demande est captivante. « Moi, il dit, poussé par le souhait de savoir que jusqu'à 70 ans, j'ai jugé la seule et supérieure raison de vivre, je suis conscient de ce qu'a dit un savant grec. Même si j'aurais un pied dans la tombe, je voudrais apprendre quelque chose. » Pomponius lui répond avec soin. À son tour, il cite d'autres extraits des livres juridiques. Nous ne savons pas si celui qui a écrit cette lettre était à son tour un juriste, mais ses paroles montrent que la littérature pouvait être consultée pour le plaisir de la lecture tout court. Et j'espère que ce sera une invitation suffisante pour les prochaines leçons. Merci.